Les études scientifiques nous ont servi de boussole au début de la crise du Covid et pourtant toutes ne sont pas rédigées dans les règles de l'art. De plus en plus d'articles sont aujourd'hui dépubliés et cela inquiète le monde de la recherche. Bonjour Anne-Laure Barral.
Bonjour.
Vous avez enquêté et vous avez découvert que frauder une étude scientifique, eh bien ça peut être très facile à faire.
Oui, grâce notamment à des logiciels informatiques comme SciGen. Il vous suffit de remplir un petit formulaire et il génère automatiquement un bel article plein de graphiques dans un anglais parfait. Cyril Labbé est informaticien à l'université de Grenoble. Il l'a utilisé pour écrire des dizaines de faux articles sous le pseudonyme d'Eikanker, un chercheur fictif qui s'est retrouvé plus cité qu'Einstein sur Google.
Eikanker, c'est un chercheur, je l'ai créé en mettant sur le web un certain nombre de textes générés automatiquement avec cet outil SciGen. Donc tous ces textes se référencent les uns les autres, ce qui permet à Eikanker d'avoir ce très grand nombre de citations. Voilà, l'objectif, c'était de montrer effectivement les failles qu'il peut y avoir dans le comptage automatique des citations.
Et ces failles, c'est par exemple que plus les études sont citées, plus leurs auteurs deviennent des références crédibles.
Oui, mais ça, c'est pas nouveau, les logiciels sont déjà anciens.
Oui, c'est vrai, mais il y a aussi aujourd'hui de nouveaux systèmes d'intelligence artificielle encore plus performants pour écrire toutes sortes de textes automatiquement, comme l'explique Didier Schwab, spécialiste du e-learning à l'Université de Grenoble.
Le système, il va apprendre à générer du texte à partir des textes qu'il aura rencontrés. Si vous apprenez uniquement sur des pièces de Molière, vous allez générer des choses qui ressemblent à Molière. Si vous apprenez uniquement sur des articles scientifiques, vous allez pouvoir générer de la science. Pour schématiser, si on écrit un livre, il faut clairement le relire. Par exemple, dans des comptes rendus médicaux, nous, on a des hommes enceintes de 7 mois.
Voilà, vous l'avez compris, il y a encore des progrès à faire pour imiter de vrais comptes rendus scientifiques. Et globalement, ces articles n'ont pas vraiment de sens.
Alors, comment ont-ils pu être publiés dans des revues scientifiques?
C'est un peu le problème. Ça montre qu'ils n'ont visiblement même pas été contrôlés par les relecteurs de ces revues. Il faut dire qu'elles ne les connaissent pas toujours.
C'est-à-dire?
Parce qu'elles ne les voient pas, elles ne les réunissent pas dans une salle. Elles envoient par mail l'article à corriger à des centaines de relecteurs, des professeurs d'université qui se sont eux-mêmes proposés parfois, mais qui peuvent aussi cacher de faux experts. Alexandrine Chéronet, l'une des directrices éditoriales du groupe Springer, géant de l'édition scientifique, reconnaît que devant toutes les plaintes qu'elle reçoit aujourd'hui, elle doit faire la chasse aux faux relecteurs.
On doit faire un travail de recherche, d'investigation sur ces relecteurs, de vérification, savoir qu'est-ce qui s'est passé, qui sont les personnes derrière ces adresses e-mail. Donc, on est vraiment obligé de faire très, très attention à la manière dont on gère.
Oui, pour gérer plusieurs centaines d'articles bidons, aujourd'hui, ça prend du temps.
Et il y a des fraudes encore plus graves.
Avec, par exemple, un vrai business de la triche en science. De véritables entreprises anonymes vendent aujourd'hui de faux articles avec de fausses données, beaucoup plus dures à repérer. Et ça inquiète beaucoup Elisabeth Bick, microbiologiste néerlandaise et spécialiste de l'intégrité scientifique.
Il y a des entreprises qui produisent des articles qui ressemblent à de vrais articles scientifiques, mais qui sont complètement faux. Et ça m'inquiète beaucoup. Les textes sont un peu différents, les cancers dont ils parlent sont différents. Nous en avons découvert quelques centaines qui semblent provenir de ces usines à articles. Certains traitent par exemple du cancer de la prostate, mais la moitié des patients sont des femmes.
Et ces usines à articles, ces paper mills en anglais, font aussi d'autres propositions malhonnêtes aux chercheurs. Vous pouvez par exemple acheter pour un peu plus de $1000 une place d'auteur sur un article pour des traitements contre le cancer, même si vous n'avez pas fait de recherche du tout dessus.
Et alors, est-ce qu'on a une idée de qui sont les tricheurs?
Alors, il faut faire de longues enquêtes pour le savoir exactement, mais pour Hervé Maisonneuve, médecin et spécialiste de l'intégrité scientifique, la pression à la publication est en cause.
Quand on voit le nombre de rétractations monter progressivement ou le nombre de fraudes dont on parle, il se passe quelque chose. L'électronique a permis d'inventer des articles à partir de données. C'est essentiellement un problème asiatique parce que la pression à publier est, comme chez nous, très importante, mais peut-être encore plus importante. En Chine, celui qui ne publie pas n'a plus de carrière du tout.
Alors, nos chercheurs français seraient-ils plus honnêtes que les autres? Le CNRS nous a expliqué avoir quand même prononcé 4 sanctions en 3 ans pour mauvaises pratiques et fraudes. Certes, les tricheurs ne sont pas majoritaires, ils représentent environ 2% des études, mais quand vous avez plus de 6 millions d'articles publiés comme en 2020 par exemple, eh bien ce n'est plus si anecdotique que ça, avec plus d'une centaine de milliers d'articles potentiellement frauduleux.
La montée en puissance de la fraude aux études scientifiques, une enquête d'Anne-Laure Barral de la cellule investigation de Radio France à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page des matins du samedi.